When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, re-zut et re-zut derrière.
Ah, je vois, monsieur se fout de moi, monsieur fait d'ironie.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
All this beautiful, le vieux c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Salut les amis.
Hello.
Hello. Bonjour.
Vous trouvez pas que je deviens de plus en plus beau en vieillissant?
De plus en plus vieux.
Ah oui, c'est ça, merde, je confonds toujours parce que c'est presque les mêmes lettres.
Presque.
C'est comme la différence entre Nicolas et Beat. Imaginez, on est fatigué ce soir, enfin, parce qu'il est tard là, il faut nous excuser, cet épisode va être un peu dur parce qu'il est tard et on est un peu fatigué.
Si tu commences comme ça, mais je vais devoir monter dans des sommets de purulence.
Ouais, c'est ce qu'ils me disent tous. Oh, allez, imaginez un peu, on fait un effort, on ferme les yeux, concentrez-vous. Imaginez, on serait dans le futur, genre, allez, 2035, et la Terre serait devenue inhabitable pour les êtres humains à cause d'un virus mortel qui touche pas du tout, en revanche, les autres animaux. Imaginez, on pourrait quand même envoyer une personne dans le passé pour essayer de comprendre d'où vient ce virus, mais imaginez, en fait, tout ça serait qu'une vaste boucle temporelle.
Il a des antécédents, docteur. Violence, insolence, rébellion.
Mais asseyez-vous donc, monsieur Cole.
Nous avons un nouveau programme extrêmement avancé, quelque chose de très différent.
Une chance pour vous de voir votre peine réduite.
Et probablement de contribuer au retour de l'espèce humaine sur la surface de la Terre.
L'armée des douze singes de Terry Gilliam avec Bruce Willis, Madeleine Stowe et Brad Pitt. Eh bien, comme à chaque fois dans ces mardis consacrés à l'histoire du cinéma, on va faire un petit rappel avec toi, Sophie, sur la carrière de Terry Gilliam, ex-Monty Python.
Bah oui, en fait, Terry Gilliam, c'est un des esprits complètement barrés, déjantés et absurdes des Monty Pythons. Donc, vous connaissez cette troupe à l'humour britannique. Terry Gilliam, c'est un peu l'outsider parce qu'en fait, Terry Gilliam, il n'est pas de base et originaire britannique. Il est américain et il s'est fait naturaliser britannique. Et pourtant, son cinéma, en tout cas, on va le voir ce soir, a été en partie tourné et brandé américain. C'est le cas, du coup, de L'Armée des Douze Singes, qui est sans doute son film que je vais appeler le plus populaire. Le plus populaire, pourquoi? Parce que c'est l'un des moins absurdes de Terry Gilliam, parce que même s'il n'est plus toujours allé vers la comédie ou vers des influences très Monty Pythons, il a toujours gardé une certaine folie. Dans ces films, vous avez sans doute, en tout cas si vous êtes de notre génération, entendu parler de l'énorme trip sous multiples drogues qui est Las Vegas Parano. Moi, je vous en ai sans doute déjà parlé, mais Brazil, c'est sans doute un de mes films préférés, qui est une énorme dystopie très dark, très inspirée de 1984. Mais il a aussi fait, en tout cas en début de carrière, des choses un petit peu plus absurdes comme Les Aventures du Baron Munchausen, qui est un cinéma un peu plus carton-pâte, et ou pareil avec The Fisher King. Et plus il avance, plus il va s'éloigner du carton-pâte pour aller au début vers un cinéma un peu plus traditionnel américain, même si barré, pour aller vers du complètement barré, notamment avec L'Imaginarium du Docteur Parnassus, qui est un film qui a été marqué par la terrible tragédie qui est le décès précoce de Heath Ledger, qui a... En fait, Terry Gilliam, ce qu'il faut savoir, si je devrais le résumer, c'est un mec qui a très souvent des merdes de tournage. Ça, c'est quelque chose qui le caractérise assez souvent, notamment avec donc L'Imaginarium du Docteur Parnassus, mais aussi son dernier film en date, c'est L'Homme qui tue à Don Quichotte. Et il y a un super documentaire sur le, non pas le tournage de ce film-là, mais sur les multiples tentatives de tournage du Don Quichotte de Terry Gilliam qui s'appelle Lost in La Mancha. Et donc, Terry Gilliam, c'est pas toujours un chanceux. Faut savoir que donc là, on va vous parler de L'Armée des Douze Singes, énorme cast US, Bruce Willis, Brad Pitt, C'est un gros film qui est bien ancré dans la matière de la fin des années 90, qui vient questionner la réalité, ce qu'on peut percevoir comme vrai, comme faux, ce que les gens disent, comment on ment, comment on nous ment, comment on modifie la réalité. C'est un film qui est assez passionnant, mais par contre, c'est un film de commande. Donc ça, je pense qu'on va beaucoup en parler. Il est peut-être un peu moins inscrit dans le côté purement guillemesque, guillemien, que moi j'aime tant dans Brasil, mais qu'il a fait quand même quelques années avant, 10 ans avant pile. On retrouve quelques grandes thématiques. Cependant, je pense que c'est un peu un ovni, pour moi, l'Armée des Douze Singes, dans la filmographie de Guilliam.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois effectivement un peu un ovni dans sa filmo, et pour autant, c'est son film le plus populaire, et c'est un film qui devient un jalon quasiment instantané dans le cinéma de science-fiction, notamment évidemment dans son époque. Mais plus généralement, ce qui est passionnant avec ce film, Simon, c'est que c'est un film extraordinairement intertextuel. C'est vraiment une sorte de kaléidoscope, de patchwork de science-fiction et qui emprunte de partout au cinéma, à la littérature et pas d'ailleurs uniquement à la science-fiction parce qu'on ne peut pas parler, et d'ailleurs on en parlera tout à l'heure, de l'Armée des Douze Singes sans parler de la source du film originel puisque c'est une commande, comme l'a dit Sophie, et c'est précisément une commande de remake d'un grand classique très atypique qui est La Jetée de Chris Marker.
La Jetée qui est un film sans singe et donc pas évident. Enfin, voilà, oui, non, il faut bien comprendre que c'est un projet un peu fou dans tous les sens du terme, parce que on va vous parler un petit peu plus tard dans l'émission en détail de La Jetée de Chris Marker, mais quand on dit que c'est un projet fou, voilà, pour que vous ayez une idée du concept, La Jetée, c'est un moyen métrage de science-fiction également qui n'est composé que d'images fixes et de voix off. En gros, c'est
en noir et blanc.
Pardon.
En noir et blanc,
absolument. En gros, c'est un espèce de roman photo animé et qui va passionner, émouvoir et sidérer le spectateur, en fait, parce qu'il parvient, ou pas, ça dépend de chacun, mais en tout cas, moi, il est parvenu très, très fort à faire en sorte que chacun comble les trous entre ces images, entre ces photos. Enfin, vous pensez bien que faire le remake hollywoodien d'un film expérimental de science-fiction en images fixes, en noir et blanc, sans action, qui se base sur le verbe, c'est en soi une commande très étrange, très curieuse, qui a même pas beaucoup de sens. Et en plus, on l'a confié à qui ? À Terry Gilliam, accompagné d'un casting de malade. Donc c'est un projet qui est vraiment un peu gueudin, un peu fou. Et ce qui est fascinant, pour moi, c'est la manière dont Gilliam va totalement parvenir à injecter sa folie dedans. Parce que oui, c'est un film de commande. Je suis pas loin de penser que c'est son meilleur film, et je suis pas loin de penser que c'est le plus gilliamien. Toujours par des biais paradoxaux et on va dire par des chemins de traverse, mais pourtant pour moi le résultat est fascinant. Et pourquoi ? Il accomplit un truc démentiel dans ce film qui est, au-delà de bien faire jouer Bruce Willis, parce que beaucoup beaucoup s'y sont cassés les dents, hein, mais pas lui, pas Terry. Tout simplement, ce qu'il arrive à faire, c'est transformer le présent, parce que le film se passe dans l'Amérique contemporaine de sa sortie. L'Amérique qu'on découvre dans le film, et alors même si le film se déroule sur quelques années. Et voilà, c'est l'Amérique de la fin du XXe siècle, elle nous est familière. Et pourtant, grâce à l'écriture de ses personnages, à sa mise en scène et à une donnée qui pour moi est essentielle chez Gilliam, dans ses grands films en tout cas, il va réussir à nous donner l'impression que ce moment-là de l'Amérique, c'est à la fois un moment du passé, parce qu'on est vraiment collé au basque émotionnel de ce héros qui voyage dans le temps. C'est-à-dire qu'à la fois, on visite notre présent ou une contemporanéité. Bref, c'est un film contemporain et c'est un film contemporain qui se décline au passé. C'est un film contemporain qui a déjà un goût d'apocalypse alors que le monde ne s'est pas encore écroulé, mais il est à ce point-là en sursis, il est à ce point-là en équilibre sur des bases friables et putrescentes que le monde a un parfum d'apocalypse, et ça c'est quand même très étonnant. Voilà, donc c'est un film qui est bourré de paradoxes, qui arrive à nous faire croire à la folie. Et pourquoi ? Parce que Gilliam, dans les films qu'il réussit, c'est pour moi un des seuls cinéastes du bordel. C'est très particulier comme sentiment. Pas le bordel dans le sens quelque chose qui serait raté, pas le bordel dans le sens quelqu'un qui ne saurait pas gérer son histoire. Mais moi, quand je regarde les bons Gilliam, j'ai à chaque seconde l'impression que la caméra va lâcher, va tomber du pied. J'ai l'impression que le décor va s'écrouler, que d'un coup, il y a de la fumée qui va arriver, un dragon sortir du cadre. Et j'ai l'impression que ça va me plaire. Il y a une espèce de folie virale dans le cinéma de Gilliam qui, accolé à un cadre de blockbuster, de commande, de science-fiction, transforme cette aventure en un truc démentiel. Moi, j'ai vu le film quand il est sorti en vidéo, je crois, donc j'étais pas bien vieux, je devais avoir 11 ans, 12 ans. J'étais mais ébahi. J'étais bouche bée. Alors que je reconnaissais tous les éléments. J'avais déjà vu des films avec des voyages dans le temps. Il y avait déjà eu Les Visiteurs à l'époque. J'avais déjà vu. Non, mais je dis ça en rigolant, pareil, mais je veux dire, il n'y avait pas de concept que je ne pouvais pas comprendre. J'avais déjà vu des films de voyages dans le temps. J'avais déjà vu des films d'apocalypse. J'avais déjà vu des films avec Bruce Willis, sauf qu'il n'avait pas des tenues de cosmonaute transparente en plastoc. Il avait des Marcel. J'avais déjà vu des films avec Brad Pitt, sauf qu'il zozotait pas. Il avait une canne à pêche et c'était l'automne. Bref, ce que je veux dire, c'est que je me croyais tout à fait prêt à appréhender le film et j'ai vu un truc impensable, inconcevable, complètement dément. Moi, je me souviens les séquences, notamment au début dans l'asile, les séquences dans les tranchées, c'était des trucs, moi, qui étaient mais à se dévisser la mâchoire. Et enfin, le film accomplit tout ça en restant intimement connecté à la jetée de Chris Marker, en s'avérant probablement peut-être le rôle le plus émouvant de Bruce Willis, un rôle qui n'est pas un rôle tout seul, c'est un rôle de duo, parce que c'est un film d'amour aussi, c'est une grande fresque romantique, il est traité quasiment à égalité avec Madeleine Stowe, qui est une comédienne bien trop rare hélas, mais qui est immense dans ce film-là aussi. Bref, c'est une œuvre, c'est une fresque de science-fiction incroyable, et je le redis encore une fois, où la partie futuriste, la partie science-fictionnelle occupe peut-être 3% du métrage final, à peine, et donc qui arrive à faire de notre monde un terrain d'exploration science-fictionnelle souvent terrifiant.
Et c'est d'autant plus passionnant que Guillaume a avoué ne pas avoir voulu voir la jetée de Chris Marker avant de faire le film pour précisément ne pas se laisser envahir et pétrifier par le film de Marker. Alexis.
Moi je sais que Arthur a une passion pour les premiers films. Moi, j'ai une passion pour les films de commande. Je trouve qu'en général, quand les cinéastes sont un minimum intéressés, un minimum stimulés par la commande qu'on leur file, et quand ils sont capables de faire preuve d'imagination, en général, c'est dans les projets de commande, parce qu'il y a de la contrainte, parce qu'il y a des obstacles à franchir, qui se révèlent le plus imaginatifs et les plus radicaux et les plus inventifs. Et ça se vérifie dans beaucoup, beaucoup de carrières. Par exemple,
Chéri de Lescott.
Chéri de Lescott, oui, puisqu'en l'occurrence, Alien et Blade Runner sont des projets de commande. Chapeau l'artiste. Mais ça se vérifie même sur des projets qui sont moins évidents, qui ont pas l'air d'être des projets de commande tellement ils sont personnels. Comme par exemple le parrain de Coppola. Coppola voulait pas faire Le Parrain, il a été obligé d'accepter parce qu'il avait produit THX 1138 de Lucas, qui avait été un gros bide et qu'il était endetté à fond, ce qui lui est arrivé pas mal de fois dans sa carrière. Du coup, il a dit bon, ok, je vais le faire, boum, chef d'œuvre. C'est un peu ce qui se passe avec L'Armée des 1200 en ce qui me concerne. Moi, je suis pas un grand spécialiste du cinéma de Guillaume, il m'en manque encore pas mal, mais je suis frappé par le niveau de maîtrise et surtout le degré de personnalité qui transparaît dans ce film-là, en fait. Il n'y a pas un plan qui ne ressemble pas à l'idée qu'on peut se faire de Terry Gilliam dans l'imaginaire collectif. D'ailleurs, je trouve que c'est vraiment avec ce film-là qu'on se rend compte que Terry Gilliam et Jean-Pierre Jeunet sont vraiment des cousins de cinéma, quoi, à bien des égards. Gilliam est un petit peu plus intelligent et certainement un peu moins méchant que Jean-Pierre Jeunet, mais je trouve que c'est un film qui déborde.
Je pense que Jean-Pierre Jeunet est le boudin germain de Terry Gilliam.
Oui, certainement. Mais je trouve que c'est un film qui est d'une inventivité, d'une richesse assez dingue, alors que pourtant, tu as bien fait de le relever, Simon, il se passe dans notre monde. Et Sophie le disait un peu en introduction, il s'est passé quelque chose dans le cinéma populaire des années 90 qui est absolument fascinant et qui est unique. C'est un moment, on a l'impression que le cinéma populaire a presque envie de dire aux gens qui le regardent, faites attention à la réalité qui vous entoure, c'est pas forcément ce que vous croyez. Il y a eu énormément de films qui correspondent à cette description-là, notamment dans l'année 99, mais c'était normal, on était à l'aube de l'an 2000, les gens avaient peur du bug informatique, de la fin du monde, etc. Le passage au nouveau millénaire a été une période extrêmement anxiogène et angoissée. Et donc, on avait des films, par exemple, comme Matrix. Matrix, on vous dit, vous avez l'impression qu'il y a un truc qui cloche dans votre monde, bah oui, c'est parce que votre monde n'existe pas. Ou Fight Club, qui jouait beaucoup sur justement cette espèce de sentiment bizarroïde, on se disait, bon là, quand même, il est bizarre ce personnage de Tyler Durden. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous dis pas pourquoi, mais effectivement, il est bizarre. Et
en plus, ça découvrir le film tellement tard.
Parce qu'on me l'avait spoilé, c'est pour ça que je le fais pas. Mais l'Armée des 12 singes est peut-être l'une des premières étincelles de ce mouvement-là, parce que tout le long du film va se poser la question, et c'est une grande question à la fois de cinéma de science-fiction, mais même de cinéma fantastique et de cinéma en général, qui est la question du point de vue. Qu'est-ce que ce personnage-là voit ? Est-ce qu'il voit la réalité ? Est-ce qu'il voit le spectre de sa propre folie mentale projetée sur la réalité qui l'entoure ? Est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Est-ce que les images qu'on voit, est-ce que le personnage semble interpréter de ces images-là ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est factice ? Et en fait, c'est un film qui est vertigineux parce qu'il est en permanence réversible.
C'est ça.
À tous les niveaux. Et ça.
Et que les personnages changent eux-mêmes de point de vue sur cette question-là.
Exactement.
Ils se posent des questions, en fait.
Exactement. Et c'est poussé à une radicalité où le spectateur lui-même est très vite amené à se poser des questions sur absolument tout ce qui constitue le film. Sur la narration, sur la mise en scène, sur comment l'image va nous transmettre des informations et en même temps en cacher d'autres, sur le rôle que peuvent jouer les personnages, le personnage de Brad Pitt notamment, qui a quand on le voit la première fois, on se doute absolument pas de où ce personnage va aller et de quelle va être son importance dans le récit. Et pourtant, tout fait sens et tout s'imbrique. Et en fait, c'est vraiment un film qui s'amuse en permanence à faire croire à son spectateur qu'il est en avance, puis ensuite à lui faire croire qu'il est en retard. Et c'est un film qui désarçonne, mais qui, je trouve, arrive à capter quelque chose, ouais, qui relève d'une espèce de paranoïa ambiante qui sied très très bien au cinéma de Gilliam.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Arthur, peut-être
qu'il
n'y a pas...
En fait, oui, j'ai une question pour... parce que bah, du coup, Simon a répondu, mais Arthur... Alexis, je sais, mais toi, tu l'as découvert maintenant ou pas?
Non, moi, j'avais déjà vu okay. Adolescent.
Ok, bah, c'était ma question, genre... qui l'a découvert ado, j'espère qu'on reparlera de ça après.
Moi, c'était un peu mon angle d'attaque sur ce film, parce que vous avez déjà beaucoup dit. Et, en fait, je l'ai revu tout à l'heure, parce que je ne l'avais pas vu depuis environ 15 ans. Mon Dieu, je suis vieux, c'est
non,
vieux,
mais pareil, hein, t'inquiète.
Et en fait, du coup, connaissant l'histoire, connaissant l'intrigue, connaissant la boucle temporelle, connaissant un peu le parcours des personnages, je me suis plutôt intéressé aux détails. Et en fait, en termes de... parce que j'avais pas ce regard-là à l'époque, adolescent. Moi, je me prenais une espèce de grande histoire avec des effets cool et surtout une vraie intrigue de SF qui me plaisait. Là, je me suis concentré sur la DA. C'est fou. Le travail sur les décors, le travail sur... Tout à l'heure, Simon parlait de la scène des tranchées. Je m'en souvenais plus du tout. Et en fait, en la revoyant, je me dis, putain, c'est marrant. Il a pas pris le parti d'essayer de tourner dans des décors réels où on pourrait voir une vraie forêt ou quoi. Le fond est très noir, très sombre. On sent que c'est un truc de studio. Et pourtant, ça colle tellement à la direction artistique du film et de Gilliam qu'il y a un truc un peu fantasmagorique qui fonctionne et j'y crois alors que ça fait factice. Mais parce qu'en fait, tout ce que je vois fait un peu factice. Et il y a un truc qui me fascine dans tout cet univers-là. Tu parlais de Jeunet. C'est hyper intéressant, la Cité des Enfants Perdus sort en 95, donc la même année,
Permet
des Doux Singes. Moi, j'ai longtemps pensé naïvement que Jeunet et Caro étaient influencés par l'œuvre de Gilliam, mais en fait, je suis pas sûr que du coup, il y ait une corrélation à ce niveau-là. Et il y a même un niveau de détail, je vais être très tatillon, mais vous allez... Moi, en tout cas, c'est un truc qui m'a sauté aux yeux tout à l'heure. Je suis persuadé que Gilliam, il a laissé des trucs volontairement pour réussir à certains moments à ancrer son récit dans le réel. Tout à l'heure, vous parliez de... il parle de ces États-Unis dans la fin des années 90. Il y a un truc qui est très bête, c'est que généralement, quand on fait un film qui est censé se passer dans un ou deux ans post-tournage, on enlève les éléments un peu temporels vraiment marqués. Il y a un moment où le personnage interprété par Bruce Willis va enlever des posters pour essayer de trouver la marque de la fameuse secte des 12 singes. Il enlève pas n'importe quel poster, il enlève les posters du premier album de Nas, Illmatic, qui est sorti en 94. Et donc moi, fan de rap, je me dis, bah c'est marrant, c'est censé se passer en 96, et pourtant ce poster, il date de 94. Mais en fait, ce que je comprends, c'est que, putain, mais ce truc qui n'a ni queue ni tête, qui ressemble absolument pas à la réalité, avec ses tranchées sans fond, sans ciel, et ben dans ce coup, il y a un élément qui fait... Oh! Putain, il y a Nas dans les Doux Singes. Et d'un seul coup, je suis rattrapé par la réalité en me disant que tout ce que je vois, tout ce qui me semble le plus factice ou faux ou futuriste, et ben d'un seul coup, ça devient vrai. Et il y a plusieurs moments comme ça où dans le film, il va réussir à renverser des trucs. Je trouve ça mais fou. Et comme l'a dit Alexis, c'est très vrai. Réussir à mettre à ce point-là de soi-même dans un projet de commande, c'est rare. Hein. Parce que t'es fasciné par ça, on va pas se mentir, c'est pas courant hein, les projets de commande qui sont à ce point-là réussis.
Il y en a peut-être plus que ce qu'on pense, mais là, on est sur un niveau de maîtrise
mais,
dingue.
Mais au-delà de ça, au-delà de réussir à en faire quelque chose, réussir à parler autant de soi, de ses problématiques, de son œuvre et d'en tirer autant de choses différentes, je trouve ça fou. Et puis, dernier truc avant de vous redonner la parole, mais J'ai trouvé ça incroyable de revoir Brad Pitt en leader de secte, alors que j'avais Fight Club en tête parce que j'ai revu des scènes il y a pas longtemps. Ouais, et puis, en fait, il annonce plein de choses en fait. Ce film.
C'est mon point noir avec le film, moi personnellement. Ah ouais. Alors pas le rôle de Brad Pitt ou l'écriture de son personnage, mais moi j'adore Brad Pitt en tant qu'acteur. Je sais qu'en tant qu'être humain, c'est plus compliqué, mais je trouve qu'il a eu des rôles extraordinaires dans sa carrière et que c'est un quasi sans faute. Même dans des séries B de divertissement un peu pétées, genre Bullet Train, je le trouve parfait dedans, tu vois. Là, il est tellement en sur-régime en permanence qu'il y a un moment où je décroche.
Ah ouais ?
Ouais, je trouve que ce personnage-là, pour le coup, il est vraiment... il est sur une seule note et il la joue à fond tout le long. Il y a un moment où ça me lasse un peu. Mais voilà, c'est
ma seule réserve. Il y a un moment où il est en famille, où il y a un jeu faussement beaucoup plus en retenue et...
Ouais, c'est le retenu qui en fait trop. Il joue Jared Leto, quoi.
Ouais, c'est un peu ça, ouais.
Ouais, ou dans un film de Guy Ritchie, hein.
Enfin, c'est pas faux, ouais. C'est
dans
pas
Snatch,
faux.
Il est...
Il a la main lourde un peu aussi.
Il déploie un peu le même
style. Ah, c'est quand même un film peu pervers, je suis arrêté.
Ah, tu le fais bien.
Ah, je croyais à Nièvre. Donc oui, assez parlé Nivernais. Non, parce que je voulais dire, à nouveau pour revenir un petit peu sur les liens avec la jetée de Chris Marker, ce qui est très intéressant, c'est que la jetée, ça fonctionne finalement par soustraction. Je le disais, c'est des images fixes, juste une voix off, et donc au spectateur de recréer quelque chose. Ben là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que de ce film, entre guillemets, très vide, lui, il fait un projet qui déborde. Il n'y a pas une séquence où il n'y ait pas 15 000 interprétations possibles. Il n'y a pas une scène qui ne te prend pas la tête. Et je trouve que l'idée de faire un film trop plein d'un film trop vide, c'est quelque chose qui est très excitant, mais qui là aussi est tellement casse-gueule. Et enfin, ce qui est très intéressant, j'aime beaucoup ce que tu disais, Alexis, sur l'idée d'être, de temps en temps avoir l'illusion d'être en avance, de temps en temps avoir l'illusion d'être en arrière. Mais c'est ce qui me rend justement le personnage de Brad Pitt intéressant, c'est que, effectivement, je le découvre dans le film, je dis, oulala, il en fait trop, il est en sur-régime. Puis je comprends qu'en fait, c'est pas du tout sur lui que je dois me concentrer, c'est pas vraiment lui le sujet, et je trouve que la manière dont c'est amené, c'est assez brillant, et du coup ça ne me rend que plus ironique le fait qu'il soit je suis un savant fou, bah non t'es un gros blaireau. et j'aime bien cette malice là, mais aussi ce que je trouve absolument diabolique, et sans évidemment spoiler le contenu intrinsèque direct de ces séquences, les 30 dernières minutes peuvent être lues de tellement de manières différentes que je les trouve terribles. Par exemple, effectivement, dans ces 30 dernières minutes, ce moment où Bruce Willis lui-même remet en cause quelle est sa mission, son sens et ce qu'il doit faire, bah, il va commencer à croiser, on va dire, pareil, je vous spoil pas le truc, mais des gens qui sont là pour lui dire genre, mec, on te surveille, t'as intérêt à remplir ta mission. Et en fait, il y en a un certain nombre dont vous pouvez vous demander, soit est-ce qu'ils existent vraiment ou est-ce que ce sont des projections paranoïaques, de l'esprit paranoïaque de Willis, mais dans les toutes dernières minutes du film, il y a notamment un personnage dont vous pouvez très sincèrement vous demander, est-ce que c'est quelqu'un qui a été envoyé du futur pour accomplir la mission, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est au présent, qui ignore ce qui va se passer?
Et le dénouement reste totalement ouvert. Ah, c'est l'une des fins les plus ouvertes de l'histoire du cinéma contemporain.
Tu peux vraiment la lire de deux manières.
Même de 3 ou 4.
En fait, ce qui est fascinant avec le cinéma de Guillaume, et particulièrement dans celui-là, c'est parce qu'on l'a dit, c'est son film le plus accessible. Et c'est pour ça que je posais la question sur est-ce que tu l'avais vu à l'adolescence ou est-ce qu'on l'a vu à l'adolescence. En tout cas, c'est un film d'adolescence parce que, plus que n'importe lequel de ses films, c'est un film cool. C'est vraiment un film cool, L'Armée des Douze Singes. C'est un film fun, c'est un film divertissant, c'est un film rythmé.
Ah ouais, tu trouves, hein, c'est un film dark de ouf.
Ah ouais, mais par rapport au reste...
Mais c'est pour ça que je le trouve très adolescent. Pour moi,
c'est... Il y a plein de films dark qui sont des films super cool.
Justement, en fait, je parlais de la fin des années 2000 aussi parce que ça correspond au moment où je les ai découverts, ou en tout cas à peine plus tardivement. Mais pour moi, il est dans la lignée... des Matrix, enfin en tout cas du premier, de Matrix, d'Existence, de Fight Club. En fait, c'est dans cette lignée de films qui... J'ai peut-être pas eu une adolescence normale, j'en sais rien.
Je suis absolument d'accord avec toi, mais je trouve que de tous, c'est de très loin le plus noir et le plus désespéré. Il est vraiment en mode...
Existence, c'est pas cool.
Oh bah si, on fait des pistolets avec des grosses colopendres pourries.
Ouf, c'est hyper fun, Existence. Bref, mais ah bah non, pour moi, le reste de sa filmo, il y en a qui sont un peu plus dans l'imaginaire. Je pense que son plus accessible, c'est l'Imaginarium du Docteur Parnassus, à mon goût, qui reste assez dark, hein, mais plus par contexte que par film lui-même. Mais si on compare au reste de sa filmographie, ce qu'il faut savoir, c'est que Guillaume, c'est quelqu'un qui met des références partout. Et ça, c'est hyper intéressant. Encore une fois, j'ai un rapport à Brésil qui est très particulier parce que je l'ai vu quasiment une quarantaine de fois. Et pour moi, il y a une œuvre qui l'influence, ou en tout cas un ensemble d'œuvres, c'est que c'est quelqu'un qui s'intéresse à la mythologie et à la mythologie antique. Et notamment, je pense qu'il est fasciné par le motif du labyrinthe, ou en tout cas des grandes œuvres mythologiques. Et là, il a créé une espèce... En tout cas, il a pris le motif du labyrinthe qu'il a inséré dans le motif de la boucle temporelle. Et ça, c'est brillant. C'est-à-dire que dans Brésil, il reprend directement à la fois, c'est un mélange de Thésée et de Deep, quoi, grosso modo. Et là, pour moi, il y a un peu ça, sauf qu'en fait, on ramène toujours Thésée hors du labyrinthe pour lui dire où il doit aller. Mais est-ce qu'il est vraiment dans le labyrinthe ou pas ? Et je trouve qu'il a apporté une nouvelle mythologie sur une mythologie que je trouve dans un enrobage super divertissant. En fait, peut-être que non, hein, mais j'ai toujours trouvé que c'était le plus facile d'accès de tous les Gilliam. Notamment parce que l'humour anglais, contrairement à ce qu'on peut croire quand on est fan, n'est pas accessible. Les Monty Python,
ça c'est sûr. Hein.
Les Monty Python, ce n'est pas accessible. C'est pas du tout le cas. Jabberwocky, c'est pas accessible, etc., etc. Et je trouve que même si on a tous eu un délire collectif sur Las Vegas Parano, c'est pas un film accessible du tout non plus. Hein.
Ça dépend de ce que t'as pris.
Ouais, voilà. Moi j'aurais beaucoup plus pensé au Baron Munchausen, tu vois, que j'ai découvert enfant et qui pour moi était une fable un peu bizarre mais qui pour moi était très accessible,
mais
tu vois.
Qui est doux quand on est enfant, qui est extrêmement weird quand on est ado.
Ouais. Oui, c'est vrai, tu as raison.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que effectivement je pense qu'il est accessible, peut-être le plus accessible de Gilliam. Par contre, moi adolescent, c'est un film qui m'a fait très peur.
Ah ouais?
Parce que c'est un film extrêmement pessimiste, c'est un film sur la fin du monde, c'est un film sur la fin de l'espèce humaine, c'est un film sur une pandémie, c'est un film sur... Enfin, c'est quand même des thèmes difficiles, c'est... Est-ce qu'il va rechercher sa mission? Merde, s'il n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Il est quand même emprisonné sous terre. Quand il se trompe d'année, qu'il envoie 91, il finit dans un hôpital psy dégueulasse, glauque à souhait. Enfin, moi, j'en avais pas un souvenir hyper fun, et en le revoyant, je me suis dit, mais en fait, c'est beaucoup plus sombre encore que ce dont
mais
je souvenais.
Mais c'est glauque, mais le glauque, des fois, quand t'as l'adolescence, ça te fait un frisson de ouh, est-ce que c'est
un frisson d'interdit. Mais il y a un frisson d'interdit. Moi, je suis totalement d'accord avec Sophie là-dessus. Hein.
Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un film qui évolue. Déjà, c'est un film qui a bien évolué dans le temps, c'est-à-dire qu'on peut revoir aujourd'hui avec plaisir, et c'est un film qui évolue en fonction du moment de sa vie où on le revoit. C'est-à-dire que c'est un film, et c'est ce que je disais au tout début de notre discussion, c'est un film extrêmement intertextuel. C'est-à-dire que moi, c'est un film où, que j'ai pris d'abord comme étant une remarquable déclinaison du voyage dans le temps, puisque moi, je l'avais vu, la première fois que je l'ai vu au ciné, quand c'est sorti, donc je l'avais vu avant d'avoir vu La Jetée, donc je ne savais pas du tout ce que c'est que La Jetée, donc je l'ai vu tel quel, c'est-à-dire pour un excellent film de boucle temporelle et de voyage dans le temps. Et puis ensuite, j'ai vu La Jetée, et puis j'ai commencé à me dire, tiens, mais c'est marrant, effectivement, ça me rappelle quelque chose. Et puis, quand on a vu La Jetée, qu'on revoit le film, on se rend compte, finalement, des empreintes très légers qui sont disséminées ça et là. Et puis, petit à petit, je me suis dit, mais c'est marrant, les 12 singes, ça me rappelle un truc. Mais oui, parce que l'armée des 12 singes, qu'est-ce que c'est ? C'est l'armée que convoque le magicien d'Oz quand il commence à avoir ses pouvoirs. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est que le magicien d'Oz ? C'est l'histoire de la passage dans un univers... autre, à partir, enfin, c'est aussi une histoire de voyage et temporel et entre les dimensions, et donc on commence à avoir et on remarque à partir de là les différents appels et les différents easter eggs et les petits clins d'œil que Terry Gilliam dissémine ça et là dans son film qui font référence au Magicien d'Oz. Et puis quand on commence à creuser un peu et à soulever le tapis, on se rend compte que La Jetée, Chris Marker avait pas particulièrement envie de faire un film de science-fiction, il avait envie de faire un film qui était très inspiré de Hitchcock. Et notamment, si on se souvient, et on parlera tout à l'heure de La Jetée, du film avec les plans de l'arbre comme symbole de passage du temps, eh bien, que fait Terry Gilliam ? Il met Bruce Willis et Madeleine Stowe, à un moment donné, quand ils sont en train de se cacher, dans un cinéma qui est en train de projeter exactement la scène où Kim Novak et James Stewart sont dans la forêt devant les arbres, qui rappelle...
Devant les séquoias, oui.
Et devant les séquoias. Enfin bref, et le film... fourmille de ces références-là, et y en a plein d'autres que je vous laisserai trouver, mais par exemple dans la visite psychiatrique, avec des dessins animés, il y a des Marx Brothers, etc., etc. Bref, et ça montre justement à la fois cet édifice de cette construction assez passionnante et extrêmement fourmiliante, et en même temps un peu brinque-ballante. Je trouve que ce que disait Simon, c'est-à-dire le cinéma du bordel, je suis assez d'accord avec ça, c'est du cinéma bordélique, mais c'est un cinéma bordélique qui tient, et c'est un assemblage très hétéroclite et très iconoclaste qui d'un seul coup fait une sorte de petit miracle, quoi.
Mais voilà, mais parce que des fois dans la folie il y a du sens, la folie s'aligne et il arrive à nous donner le sentiment qu'on touche ça du doigt, et c'est un truc assez merveilleux. Et puis voilà, tu vois, en disant tout ça, je pense aussi à deux choses. Par exemple, quelque part on pourrait se dire que La Jetée dans L'Armée des 12 singes, c'est ce flashback qui revient tout au long du film, qui est quasiment comme un roman photo. Qu'est-ce que c'est ce flashback? Alors rassurez-vous, pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas vu le film, ça n'est pas un spoil, ça vous est donné dès le début du film. Tout le long du récit, vous allez voir, le personnage de Bruce Willis est hanté par un semi-rêve, en fait, qui est, et ça nous est dit dès le début, un souvenir d'enfance, qui est très flou pour lui. Et puis, arrivé à un certain moment du film, vous allez comprendre que ce souvenir a un sens qu'on ne soupçonnait pas au début. Et ça arrive quand même, ça arrive assez rapidement dans le film. Et donc là, tout le sens du récit va changer. Réussir ça, et réussir à ce que ça ait un impact dramatique, parce qu'en fait, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de l'inéluctabilité. C'est pas un film dans lequel il y a du suspense, dans lequel on se dit, est-ce qu'il va y arriver? C'est un film dans lequel on se dit, OK, on n'y arrivera pas, et maintenant je vais devoir vivre avec ça, et vivre avec le sentiment que cette fin tragique est de plus en plus proche. Et ça, l'inéluctabilité, quand on y arrive, je trouve que c'est quelque chose de très très beau, de profondément mélancolique et tragique, et le film y arrive parfaitement. Et enfin, moi, je voudrais souligner l'ouverture du film, que je trouve absolument exceptionnelle. Déjà, elle est capable, tu vois, on parlait de bordel, mais de manier des trucs complètement sidérants. On est dans un paysage urbain post-apocalyptique enneigé. Un paysage qui est quand même pas très très loin entre ces quelques plans décadrés, dézoomés, débulés, d'évoquer un petit peu la grammaire du cinéma, enfin pas du cinéma, mais de la bande dessinée et de la bande dessinée de super-héros, parce qu'on est dans une partie historique, il n'y a pas beaucoup de parties de centres historiques dans les grandes villes américaines, dans un espèce de centre historique un peu à la Gotham, un peu fou d'ailleurs, on va très vite voir des statues d'anges, enfin quasiment des gargouilles, on est dans ce truc très étonnant, là-dedans arrive Bruce Willis dans une espèce de combinaison thermique transparente, assez bizarroïde, il faut bien le dire, on a ces plans qui entrecoupent donc cette première séquence d'un lion qui se balade là-dedans, enfin, c'est-à-dire on est quand même dans un truc qui est complètement déréalisé, qui est pas loin d'être anarchique thématiquement et visuellement, mais vraiment, et qui pourtant déjà commence un petit peu à créer, à donner le là de cet univers-là, et tout commence à devenir une espèce de mécanique un peu inarrêtable quand il trouve, ce qui est quand même un indice étrange, un indice presque, j'aimerais dire, un non-indice, il trouve derrière un gros carton, comme un carton que quelqu'un aurait utilisé dans une manif, écrit « We did it », signé en gros « L'armée des 12 singes ». Enfin, très concrètement, moi si je suis là pour essayer de comprendre d'où est venu l'apocalypse, parce que c'est ça, sa mission, c'est comprendre d'où est venu l'apocalypse. On ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, si je trouve juste un carton par terre avec marqué « Ouais, on l'a fait, l'armée des 12 singes », je me dis « Bon, bah en tout cas, il y a des gens qui buvaient de l'alcool jusqu'à la fin, quoi. » Mais tout d'un coup, on y croit, et on réussit à y croire. C'est-à-dire qu'il y a une capacité chez Gilliam, par la puissance de son iconographie, à engendrer la foi du spectateur, moi, que je trouve mais très, très impressionnante.
Et puis, il faut absolument dire un mot aussi du choix de la musique et de ce morceau de tango d'Astor Piazzolla. Qui là aussi est, fait partie de ces morceaux qui sont intrinsèquement liés au film et quand je pense à quand, c'est, en fait tu vois tu, je, quand tu décris cette scène là d'un seul coup j'ai le hop da-da, j'ai, voilà da-da, ouais c'est ça voilà
je chante bien
c'était horrible mais écoutez c'est un très très beau morceau je crois que c'est Tango Appassionato d'Astor Piazzolla si mes souvenirs sont bons mais il faudrait que je vérifie. Un dernier mot, une bonne raison en un mot d'aller de voir ou de revoir La Mienne des 12 singes en un mot 0,5 max.
Parce que comme tous les projets de commande réussie où les artistes ont suffisamment d'autonomie, c'est la porte d'entrée parfaite pour découvrir l'œuvre des artistes en question. Si vous ne connaissez pas du tout le travail de Terry Gilliam, que vous n'avez jamais rien vu de lui, regardez L'Armée des 12 singes. Après, vous aurez les armes pour vous attaquer à des projets un peu plus radicaux.
C'était beaucoup plus qu'un mois et demi là, non ?
Oui, je suis d'accord, Fayot. Vas-y Arthur, du coup.
Bruce Willis.
Ça fait deux mots.
Je suis désolé, je veux juste rebondir là-dessus parce que moi j'en ai un peu marre des gens mesquins comme Simon Rio au bout de cette table qui n'arrêtent pas de sous-entendre que Bruce Willis est un mauvais acteur alors que Bruce Willis est un acteur génial. Mais vraiment, je pèse mes mots.
Non, c'est un acteur que j'adore, mais c'est un acteur un peu systématique.
Oui, mais c'est là qu'est son génie. Je fais une petite parenthèse parce qu'encore une fois, je trouve que c'est hyper éclatant dans L'Armée des 12 singes. C'est un acteur qui fonctionne vraiment sur un registre très limité, mais c'est volontaire de sa part, c'est qu'il va se concentrer sur un aspect de son personnage qui est un petit peu paradoxal par rapport à ce que le personnage représente, et c'est ce qu'il va mettre en avant à chaque fois. Si vous prenez Die Hard, à la base, Die Hard, ça a quand même été écrit avec en tête un nouveau Schwarzenegger ou un nouveau Stallone. Hein, ça devait vraiment s'inscrire là-dedans. Bruce Willis est casté par McTiernan, il correspond pas du tout au rôle, mais c'est quand même un personnage de gros bourrin. Il balance des punchlines, il est rigolo, il tire bien, il se bat tout seul contre 15 gangsters, il les dégomme tous. C'est un personnage badass. Que fait Bruce Willis ? Il va se concentrer sur une sorte d'attitude un peu dansée, un peu légère, qui contraste complètement avec ce que le personnage est censé représenter, notamment dans les scènes où il court dans les couloirs et où c'est presque une espèce de danseur de ballet hyper aérien qui n'impose pas du tout son caractère badass, au contraire, il le réfrène. C'est le cas dans Incassable où il va passer tout le film avec cette espèce de visage fragile comme s'il comprenait rien à ce qui lui arrive alors qu'il est censé être un super-héros. Et c'est encore le cas avec L'Armée des 12 singes. C'est censé être l'homme providentiel et il le joue d'une manière, il est ahuri tout le long du film, il est complètement désorienté et je trouve ça super intéressant qu'il ait toujours cette intuition-là.
Donc Bruce Willis.
Bruce Willis. Sophie.
Une anecdote très courte. Sachez que pour ce film, Terry Gilliam a réussi à être en bagarre avec Universal et qu'il a obtenu le final cut de ce film-là, même si c'était un projet de commande parce qu'il l'avait pas eu sur Brésil. Et donc, du coup, c'est un projet que vous ne verrez qu'en Final Cut. Et ça, c'est cool.
Simon.
Meilleur film de grand angle et de tuyaux qui fument.
Ouais, c'est clair.
Bref, l'armée des 12 singes de Terry Gilliam avec Bruce Willis, Madeleine Stowe et Brad Pitt. Vous pouvez nous dire, vous, si vous êtes plutôt armée des 12 singes ou troupeau des 20 porcs. En commentaire. Pardon, je suis fatigué. oui. Et donc, nous allons... Pardon, oui, oui. Nous allons donc parler d'un autre film qui n'a rien à voir avec une truie, mais qui s'appelle La Jetée, dont nous vous parlons de tout, depuis tout à l'heure, qui est un film évidemment classique, qui est un film aussi classique qu'il est inclassable. J'aimerais vous dire un mot, dans le calme, à propos de ce film. Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. La scène qui le troubla par sa violence et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification eut lieu sur la Grande Jetée d'Orly, quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments, ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leurs cicatrices. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. Voilà, ce sont les premières phrases, le début de La Jetée de Chris Marker et qui nous dit bien qu'on est là autant quasiment Alexis face à un objet littéraire qu'un objet cinématographique.
Ouais, mais alors faut resituer un tout petit peu Chris Marker, parce que Chris Marker est un très grand cinéaste aujourd'hui étudié dans à peu près toutes les écoles de cinéma du monde, même si je pense qu'il n'y a pas un seul film de Chris Marker qui ressemble à l'idée qu'on peut se faire d'un film. Et notamment La Jetée, qui est, je crois, si ma mémoire est bonne, c'est un photoroman, je crois que c'est présenté comme ça. Je crois que dans le générique, il y a marqué La Jetée, oui, un photoroman absolument. De Chris Marker. Il n'a pas mis roman photo parce que ça faisait un peu trop magazine télé, donc il l'a inversé, il a été malin. Mais oui, donc La Jetée, c'est un film vraiment particulier parce que c'est un film qui pousse le refus du cinéma jusqu'à son dernier degré, c'est-à-dire juste avant que ça ne soit plus du cinéma. Et c'est ça qui est intéressant. C'est donc un film raconté exclusivement avec des images fixes qui vont s'enchaîner à un rythme d'ailleurs assez mécanique, hein, dans ma mémoire. Et on va coller une voix off sur ces images pour leur donner un contexte, pour leur donner un commentaire et pour permettre au spectateur de faire lui-même advenir un récit et un univers à partir de ces images-là, ce qui est effectivement quelque chose qui se rapproche plutôt bien de la forme littéraire, parce que quand vous lisez un bouquin, vous n'avez que des mots, vous n'avez pas d'image, vous n'avez pas de son, tout ça, c'est à votre cerveau de le reconstituer. C'est exactement ce qui se passe dans La Jetée. À ceci près que La Jetée a eu un impact extrêmement fort sur le cinéma plus grand public, précisément parce qu'il a influencé L'Armée des 12 singes, mais aussi, et ça je pense qu'il faudra s'attarder un petit peu là-dessus, parce que c'est pas loin, évidemment dans une forme beaucoup plus expérimentale et beaucoup plus radicale, mais c'est pas loin d'être une sorte de fan footage, La Jetée, dans le sens où ces images-là, nous ne savons pas qui les a prises, nous ne savons pas d'ailleurs si elles sont réelles ou pas, mais juste elles se jouent devant nos yeux comme quelqu'un qui ferait défiler des diapositives les unes à la suite des autres, tout en commentant la projection. Donc on est vraiment inclus dans le dispositif de manière beaucoup plus intime et beaucoup plus puissante que dans un film traditionnel où il y a quand même la limite de ce qu'on appelle la diégèse, le quatrième mur, on sait que ce qu'on regarde ne se déroule pas dans notre univers. La Jetée, par sa forme radicale, arrive à abolir cette frontière-là, et c'est ce qui en fait un des films fondateurs, en tout cas un des films fondateurs du found footage.
C'est presque un mind footage, c'est-à-dire que
oui, c'est ça.
Est-ce que ce ne serait pas tout simplement un écho, un extrait d'un fil de pensée, d'une rêverie? Mais est-ce qu'on n'est pas, on va dire, dans un pur point de vue subjectif, à découvrir les images mentales, l'inconscient d'un personnage qui parlerait de lui à la troisième personne? Et là, tout d'un coup, ça devient exceptionnel. Tu disais, et c'est ça qui est passionnant, effectivement, c'est totalement un film de cinéma, parce que c'est un film qui étudie, finalement, qu'est-ce que c'est le plus petit dénominateur commun du cinéma. À la fois, on se dit, non, c'est pas du cinéma, c'est pas de l'image animée. Ouais, mais bon, il y a plusieurs images qui succèdent. Tiens, elles succèdent à un rythme où je peux encore combler les trous. Tiens, c'est pas du cinéma, parce qu'il n'y a pas vraiment de dialogue, il y a un texte très littéraire qui m'est lu. Ouais, mais en même temps, c'est une littérature qui a été écrite pour aller avec ces images et interagir avec. Quand je dis interagir avec, c'est pas nous les expliquer ou nous les rendre plus jolies. C'est les rendre très évocatrices et nous aider à combler les trous. Et donc, on est dans ce truc qui, à tous les degrés, quelle que soit la facette par laquelle on l'entreprend, nous fait nous dire, mais c'est pas du cinéma. Et pourtant, quand s'arrête le visionnage, on est là, on fait, non, c'est au contraire le degré ultime du cinéma. C'est le film qui te montre qu'est-ce que c'est le cinéma, comment fonctionne ta suspension d'incrédulité et en quoi la suspension d'incrédulité spécifique au 7e art, elle est déclenchée par cet objet-là. Ça, c'est quand même assez dingue. Et ça en fait un espèce de truc psychédélique. Vraiment, c'est un vrai film psychédélique qui te rentre sous la peau, qui te fait t'interroger, mais comme l'Armée des Douze Singes, sur le sens de ce que tu es en train de voir. Et on va dire, tu es sur cette forme à la fois tellement maîtrisée, mais tellement lâche, et ou libre plutôt, et expérimentale, que tu peux réussir tu sais, à te faire un peu des vertiges, des vertiges existentiels, des vertiges de néant, te surprendre à vraiment, le temps du visionnage, croire que tu es vraiment dans l'esprit ou dans un message, tu vois, comme une bouteille à la mer qui serait arrivée à travers le temps. Et ça, c'est assez incroyable. Et puis il y a cette idée qui est extrêmement poétique et que le film arrive à rendre et qui me le rend assez magnifique. C'est ce que je disais, cette idée de la bouteille à la mer. Cette idée de... il y a un souvenir qui traverse le temps. Parce que, quelles que soient nos vies, qu'elles aient été faciles, difficiles, heureuses, malheureuses, on a comme ça quelques souvenirs de notre enfance, ou d'un moment, ou d'une époque, d'ailleurs pas forcément l'enfance, mais qui traversent. Qui traversent, dont on questionne, est-ce que c'est bien un souvenir que j'ai, ou est-ce que c'est quelque chose que mes parents m'ont raconté? Est-ce que je me souviens tout à fait de ce qui est arrivé, ou est-ce que je l'ai reconstruit? Oh, je l'ai raconté tellement de fois à mes amis, à mes enfants. Est-ce que c'est encore un souvenir ou est-ce que c'est un mythe? Et moi, je trouve, tu vois, que ce questionnement que j'ai sur certains souvenirs, je veux dire, la fois où j'ai conquis l'Amérique du Sud tout seul, quand j'ai tué Pablo Escobar, enfin voilà, quand je suis devenu trafiquant de cocaïne, tous ces souvenirs dont je ne suis pas sûr qu'ils soient advenus, ben, ça me met un petit peu, tu vois, j'ai ce même sentiment de vertige quand je découvre La Jetée, où à un moment, j'en viens presque à me demander, est-ce que c'est un souvenir à moi ou pas? Et vraiment, je trouve que le film a une capacité comme ça à ouvrir des chambres d'écho que je trouve très puissante.
Sophie.
Je vais juste raconter, parce que vous en avez beaucoup parlé au final, du souvenir de comment j'ai découvert le film. Je l'ai découvert dans un musée, parce que je l'ai découvert à la rétrospective Chris Marker à la Cinémathèque en 2018. Et en fait, donc, moi, je connaissais rien de Chris Marker. J'y avais été amenée par l'attaché de presse de Warner, qui m'a dit « Mais si, tu vas voir, c'est super !» Et donc, je sais pas, j'arrive dans cette petite salle où on est assis hyper mal, parce que vous connaissez les salles de musée, et je vois La Jetée, ça dure 28 minutes.
Oui, tu fais bien le préciser d'ailleurs.
Oui, ça dure 28 minutes, c'est disponible sur YouTube. Et je m'assois, mais je m'assois pas comme devant un film, je m'assois comme devant une œuvre d'art contemporain, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe dans les musées. Et en fait, là, je suis complètement subjuguée par ce que je vois, parce que je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que je ne sais pas. En plus, je suis vraiment perdue, hein, parce que Chris Marker, je n'en ai jamais entendu parler. Il n'y a pas de honte à ça. Et je vois ce film qu'au début, je prends vraiment juste pour une œuvre expérimentale muséale. Puis je commence à me dire qu'en fait, c'est très narratif pour une œuvre expérimentale muséale. Et que finalement, ça se regarde de manière très agréable, contrairement à la plupart des œuvres audiovisuelles muséales. Désolée. Et je suis subjuguée parce qu'après, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit... Mais je croyais que t'adorais Terry Gilliam. Je vois pas le rapport en plus. Et on me dit, bah si, L'Armée des Douze Singes. Et là, ça clique. Et là, je me dis, mais attends, mais bien sûr. Et là, ça flash. Et je me dis, mais comment on est parti de ces photogrammes, certains flous, certains complètement débulés, qui sont vraiment pris un peu comme un Polaroid qu'on aurait mis en automatique, qui filme plein d'espèces de moments de souvenirs un peu aléatoires, et cette voix off, et comment on en arrive à l'œuvre complètement psychée, mais assez grand public, qu'est L'Armée des Douze Singes. Et en fait, je me rends compte que cette œuvre, elle a une espèce de puissance universelle pour un moyen métrage de 28 minutes français uniquement en photogramme, qui me fuck my mind, quoi. Genre, vraiment, j'ai pas d'autres mots. Et donc, c'est un peu juste ça, mon expérience avec La Jetée. C'est comment je me suis assise, j'ai pris ça en pleine gueule, et comment on a réussi comment ça a réussi à prendre cette ampleur grand public universel, et comment j'ai découvert après coup que c'était une œuvre majeure du cinéma et pas juste, en fait, une œuvre muséale.
Simon.
Peut-être pour à ceux qui seraient là en train de se dire, ouais, bon, d'accord, ça a l'air bien gentil, mais enfin, ça a quand même l'air d'être un truc expérimental, intordable. Bah, pour vous donner un exemple, alors ça n'est pas unique, bien sûr, il y a plein d'influences qui ont amené au résultat que je vais donner, mais pour vous donner une idée comme ça un peu de comment les énergies et l'expérimentation justement se transmettent d'œuvre en œuvre et ce à quoi elles aboutissent aujourd'hui. Bah, donc vous avez ça, vous avez La Jetée de Chris Marker qui va fasciner, dérouter, comme on vient de nous d'en témoigner, beaucoup de jeunes artistes. Dans ces jeunes artistes, il y en a qui vont faire par exemple quelque chose qui, à mon sens, est évidemment inspiré de La Jetée, c'est les documents interdits qui vont être présentés sur France 5, qui sont de faux fan footage ou de faux documents découverts audiovisuels. C'est à la fois extrêmement drôle, incroyablement créatif, passablement terrifiant. Bah, les documents interdits, c'est une des bases évidentes et du projet Blair Witch et de la fondation SCP et donc des espaces liminaux, c'est-à-dire de très, 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 très grands pans de l'imaginaire collectif actuel.
Et ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que c'est aussi la première pierre d'une assez courte série, mais d'une série passionnante, qui est que parce que, et certainement à cause ou grâce à la jetée, d'autres cinéastes venus de la nouvelle vague et qui ne sont pas particulièrement sensibles à l'imaginaire de science-fiction vont d'un seul coup décider de s'approprier ces univers et d'en proposer leur version.
Genre la soupe aux choux.
Exactement.
Non, genre Fahrenheit 451.
Alphaville. Voilà. Alphaville.
Ouais. De Godard.
Alphaville de Godard. Oh, la jetée, c'est 62.
Il déteste.
Alphaville, c'est, Alphaville, c'est 65 de Godard. Et Fahrenheit 451, c'est de 66. Donc voilà, c'est cette tentative, à un moment donné, de considérer le récit science-fictionnel comme une base d'expérimentation narrative et cinématographique pour un cinéma qui, par ailleurs, ensuite va lui tourner le dos quasiment définitivement. Et va d'ailleurs faire entrer le cinéma français dans une forme d'antagonisme ou de détestation des formes de cinéma de l'imaginaire qui sont vécues ou pensées comme étant une allégeance à l'impérialisme et au soft power américain. Alexis.
D'ailleurs, c'est une petite anecdote parce que c'est pas une référence. Le film est sorti avant La Jetée, 2 ans avant, si je ne m'abuse. Mais À bout de souffle de Jean-Luc Godard, il y a une séquence où le personnage de Gene Seberg va interviewer Jean-Pierre Melville, littéralement, qui lâche cette fameuse réplique insupportable, devenir immortel et puis mourir. Et si ma mémoire est bonne, cette séquence-là est tournée sur La Jetée d'Orly. Mais il faudrait vérifier, mais je crois. Donc, c'est rigolo de voir que Godard a foutu les pieds sur La Jetée d'Orly 2 ans avant Chris Marker. Mais en fait, j'aimerais juste préciser un tout petit point. Chris Marker, c'est un très grand cinéaste. Avec La Jetée, il est devenu un très grand cinéaste de fiction. C'est surtout un très grand documentariste. Et le procédé qu'il utilise dans La Jetée, à savoir commenter les images pour faire advenir du récit qui, de base, n'existe pas vraiment dans ces images-là. Il l'a beaucoup exploré dans le documentaire. Il y a eu une séquence d'un docu que j'avais étudié en école de cinéma. Si ma mémoire est bonne, c'est une séquence du Fond de l'air est rouge où Chris Marker nous démontre de la manière la plus scolaire mais la plus éclatante possible à quel point on peut, par un commentaire, littéralement transformer la matière des images alors que pourtant on les a pas altérées. Il va le faire en prenant une séquence de la vie quotidienne de l'URSS qu'il a filmée avec sa caméra et puis il va mettre cette séquence 3 fois de suite dans son montage avec à chaque fois un commentaire différent. Le premier commentaire glorifie la vie en URSS, le deuxième commentaire la dénigre, c'est un commentaire très profondément anticommuniste, et le troisième commentaire c'est juste un commentaire factuel de la situation qui se passe devant la caméra. Et j'avais été frappé à l'époque de voir que c'est 3 fois la même séquence à l'image près, et pourtant, à cause de ce changement de commentaire, j'ai l'impression que les images ne me racontent pas la même chose. En bref, si vous avez la chance de voir cette séquence-là, vous comprendrez pourquoi BFM TV et CNews se foutent de votre gueule, en fait. Et ça, Chris Marker l'avait dit littéralement 60 ans avant, c'est-à-dire le caractère visionnaire de ce très grand artiste.
Et vous pouvez ensuite regarder La Jetée en coupant le son et en mettant, par exemple, un discours de Jean-Pierre Raffarin, et vous aurez une toute autre expérience. Arthur, pour conclure.
Ouais, moi je voulais juste vous dire un petit mot parce que je vais être tout à fait transparent avec vous. Je n'ai jamais vu, en tout cas, je n'ai jamais vu en entier La Jetée. Et je voulais juste donner un petit commentaire en parallèle à ce qu'a dit Simon juste avant sur le fait que c'est un film très accessible. Moi, je trouve que c'est un film qui n'est pas si simple d'accès. C'est un film que j'ai découvert adolescent et j'ai rien compris et j'ai lâché la rampe très vite. Et du coup, j'ai une espèce de mini blocage débile que je pense maintenant je pourrais dépasser parce que maintenant j'ai peut-être les armes cinéphiliques autres. Je voulais juste pour prévenir, si vous voulez, allez-y. Si vous ne comprenez pas, si vous êtes un peu. Si vous avez du mal à rentrer dedans, si vous avez du mal à saisir, si vous vous ennuyez ou quoi, ce n'est pas grave. Redonnez-lui une chance peut-être. Je pense que ce n'est pas un film qui est si abordable que ça. Et typiquement, peut-être que j'aurais préféré le voir dans un musée comme Sophie que moi devant mon petit écran YouTube dégueulasse il y a 15 ans.
Non, alors tu as raison, pardon, mais c'est moi qui me suis mal fait comprendre. Je voulais pas dire qu'il était accessible, je voulais dire que le film durant 28 minutes ayant inspiré tout ce que je disais après, regardez-le dans cet état d'esprit en vous disant au pire j'aurais perdu qu'une demi-heure si ça me déplaît et je vais essayer de moi de voir ce qu'il y a en germe de ces trucs que je connais et que j'aime. Alors, en gros, j'ai presque envie de vous dire, il y a beaucoup de La Jetée de Chris Marker dans Alan Wake 2. Bah ça peut être marrant peut-être si vous devez le découvrir de vous dire tiens, je vais le regarder en essayant de penser à ça. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas du tout accessible.
Salo, je voulais pas prendre Alan Wake 2, tu as fait ça exprès pour que je le prenne et que tu puisses venir y jouer chez moi. Je n'ai pas le temps de jouer en ce moment, Simon, je n'ai pas le temps, je travaille trop. Arrête avec de matrixer. Ok, je l'achète.
La première Inception, sans matériel et sans alcool.
Donc jetez donc un coup d'œil à La Jetée de Chris Marker. Vous pouvez nous dire si vous êtes plutôt La Jetée ou plutôt Tout Jeté. Et puis j'ai oublié de vous dire que L'Armée des Douze Singes dont nous vous parlions tout à l'heure ressort en 4K Ultra HD Steelbook chez l'Atelier d'Image et bénéficiera donc de cette ressortie le 5 décembre. Donc nous sommes un peu en amont de cette ressortie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi avec au programme l'un des derniers singles de Dalida et une plongée lointaine dans l'âge hyborien. Bye les amis et gloire au passé.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.